Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui poursuit sa semaine consacrée à la guerre par le droit en se demandant comment peut-on se protéger de cette nouvelle menace, et on le fera en compagnie de Raphaël Gauvin, député LREM de Saône-et-Loire. Nous avons vu tout au long de cette semaine les risques que fait courir l'application du droit hors de ses frontières, notamment de la part des États-Unis et plus particulièrement pour les entreprises françaises. Comment les en protéger ? Faut-il négocier de nouveaux accords ? La France est-elle à la bonne échelle ou ne faudrait-il pas plutôt les négocier au niveau européen ? Et ces enjeux ont encore redoublé d'intensité avec le numérique. Ne faudrait-il pas, autre piste de réflexion, délimiter un domaine d'actifs stratégiques ou de technologies de souveraineté plus particulièrement à préserver ? Eh bien, ce sont toutes les questions que l'on va se poser ce soir en compagnie de Raphaël Gauvin, qui est député La République En Marche et qui vient de rendre un important rapport intitulé précisément « Rétablir la souveraineté de la France et de l'Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale ». Bonsoir Raphaël Gauvin.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi cet intérêt ? Vous êtes avocat, je le rappelle à nos auditeurs, et vous avez été intéressé, captivé, inquiet, on peut le dire, de ces lois à portée extraterritoriale. Est-ce que vous pouvez nous donner le contexte dans lequel cette mission parlementaire vous a été confié ?
Alors, en fait, c'était dans le cadre des l'année dernière, dans le cadre du débat parlementaire sur la protection des savoir-faire, où il y avait la transposition de la directive, et donc j'étais rapporteur de ce texte. Et au cours des discussions parlementaires, il y a eu des... On est venu à parler de la loi de 1968, dont on va parler là bientôt, qui est la loi de blocage. Et à ce moment-là, on a décidé qu'il fallait approfondir la question, et donc il y a un rapport qui est demandé par le Premier ministre. Donc on a approfondi la question à la suite de ce débat parlementaire.
Alors, il y a eu aussi un changement de cap avec l'affaire d'Iran, avec les sanctions contre l'Iran. C'est-à-dire que nous étions déjà, on a parlé suffisamment cette semaine avec des lois à portée extraterritoriale en matière de corruption. On a vu que les Chinois aussi s'y mettent. Mais nous sommes dans un contexte du business ordinaire.
Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a la grande différence entre donc les sanctions et les lois anticorruption, c'est que les lois anticorruption, elles s'appliquent aussi chez nous.
C'est-à-dire
que nous aussi, les faits qui sont reprochés aux entreprises par les Américains, notamment à nos entreprises françaises, ils sont aussi reprochés en France.
Bien sûr.
Et donc, on l'a vu par exemple avec l'histoire l'année dernière de la Société Générale, qui a été condamnée et aux États-Unis et en France.
C'est ça.
Alors qu'avec les sanctions, c'est différent. C'est-à-dire que les sanctions, c'est une loi à portée extraterritoriale qui est émise unilatéralement par les Américains, mais et qui nous interdisent, qui interdisent à nos entreprises de commercer avec Cuba et avec l'Iran, mais en France. Cette loi, nous, les entreprises,
on le droit en France.
Voilà, c'est ça.
C'est
la grande différence entre les deux, c'est ça.
Alors, elle nous bloque en France, mais il faut trouver des critères de compétence. Il faut que la loi américaine dise, par exemple, vous avez utilisé le dollar, donc ça nous concerne. Vous avez utilisé un serveur internet basé aux États-Unis, donc on est compétent. Ça, c'est quand même un peu abusé.
C'est la grande dérive entre guillemets des lois extraterritoriales. Les lois extraterritoriales, c'est quelque chose qui existe depuis de très longues années, et la France, dans certains domaines. Où l'Europe a des lois qui ont une portée extraterritoriale. Mais la grande différence avec les Américains, c'est qu'ils ont poussé depuis la crise financière de 2008, enfin de début des années 2000, ils ont poussé le système très très loin. Et il suffit, comme vous l'avez dit, que dans une opération on ait utilisé le dollar, ou qu'il y ait un email qui transite par un serveur basé aux États-Unis pour qu'ils disent « Ah bah, ça me concerne, c'est une affaire qui me concerne, et donc je peux intervenir et je peux juger et sanctionner l'entreprise. »
Alors ça veut dire qu'en fait ils peuvent se mêler des affaires quasiment du monde entier.
Se mêler des affaires du monde entier, et ils peuvent, la Lex America est applicable dans le monde entier.
Mais est-ce que je me trompe si je dis qu'on a passé un cap avec l'Iran, c'est-à-dire avec les dernières sanctions iraniennes? C'est que quand les premières sanctions iraniennes, c'était une décision concertée. Les Européens avaient donné leur avis, et c'était ensemble qu'on avait établi des sanctions. Or là, il y a quelque chose avec Donald Trump de beaucoup plus unilatéral.
Ah bah complètement, oui.
Une sorte d'oukase qui est imposée.
La Russie aussi, on a l'Europe et les États-Unis ont ensemble fait des sanctions.
C'est ça.
Donc c'est ce que je vous disais. Là, pour le coup, les sanctions, elles sont applicables. La norme a été émise en France comme aux États-Unis, ou en Europe comme aux États-Unis. Mais c'est vrai que pour l'Iran, là, c'est un caractère totalement unilatéral. Mais c'était déjà le cas avec Cuba.
Oui.
Les premières lois à la fin des années 90.
Sauf que Cuba n'a pas le même poids économique que l'Iran.
Tout à fait, que l'Iran. Et que demain, la Russie.
Et
Parce que demain, nous, ce qui est ressorti aussi de nos auditions, c'est qu'actuellement, il y a des textes qui sont en discussion au Congrès américain et qui concernent des nouvelles sanctions contre la Russie.
Oui.
Et où là, on se retrouverait, où là, le poids économique des sanctions serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important.
Bien sûr, parce qu'on est le premier employeur étranger en Russie. Mmh. On est un investisseur important en Russie. Et donc là, ça serait encore beaucoup plus, le dommage économique serait beaucoup plus considérable.
Ou même avec la Chine, ce qui se passe là, ce qui s'est passé il y a en juin avec Huawei, les Américains. Alors, on ne sait pas très bien ce qui va sortir, mais où il semble qu'ils interdisent, ou le dernier tweet de Trump qui dit que j'interdis aux entreprises américaines de commercer avec la Chine, ou de se retirer de la Chine, de trouver un autre... Donc, les sanctions, elles pourraient aussi venir là. Et là, les conséquences en termes d'emploi de seraient mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importantes.
Et Raphaël Gauvin, est-ce qu'on va parler de l'Europe ensuite, pas tout de suite, mais c'est tout à fait caractéristique de la situation singulière de l'Europe, un peu comme variable d'ajustement de la politique européenne et de nouvelles masses, avec des marchés massifs, on l'a vu avec l'Orderon cette semaine, comme le marché chinois et la Russie. On est dans une position très très particulière.
Oui, bah on est dans un contexte très très clairement, ça apparaît, on est sorti du multilatéralisme dans les années 90-2000 à aujourd'hui une véritable guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Et l'Europe est entre les deux.
L'Europe est entre les deux et il faudra qu'elle se détermine. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette guerre économique, elle concerne directement les juristes. Elle concerne les juristes parce que bien tout d'un coup, on peut se voir obligé de respecter des lois américaines. Je pense par exemple, c'est un peu technique pour nos auditeurs, mais il s'est développé ces dernières années ce qu'on appelle le domaine de la conformité qui représente des secteurs entiers de l'entreprise où en quelque sorte, la conformité, la compliance, ça veut dire qu'il faut anticiper, s'organiser pour anticiper des irrégularités possibles. C'est un secteur qui a modifié, qui a totalement changé le paysage de l'entreprise et il n'y a pas eu une loi française, une seule intervention du législateur français.
Alors si, il y a eu Sapin 2 en 2015. Alors, qui est une réponse, mais la première. Alors en matière de corruption, mais la compliance, elle existe aussi en matière de données personnelles, etc. Mais c'est sûr que la compliance, ça c'est un mouvement qui vient des États-Unis. C'est une pratique qui en droit américain, en droit anglo-saxon, est extrêmement, extrêmement pratiqué.
Alors, vous parliez de la loi Sapin 2, c'est-à-dire la loi qui a instauré la convention d'intérêt public, quelque chose de très important. En deux mots, vous pouvez dire à nos auditeurs, Raphaël
Gauvin. C'est en fait ce qui permet dans le cadre d'une infraction, donc au départ c'était uniquement en matière de corruption, qui permet de négocier la peine entre l'entreprise qui est poursuivie et le parquet.
C'est ça, et donc ça permet
une plus grande efficacité de la justice. Ça permet d'aller plus vite et de sortir des affaires.
Et puis ça a changé un peu notre culture parce que
totalement, et notamment la culture des avocats.
Et ben voilà, c'est ça qui est intéressant. Ça a changé notre culture parce que avant les avocats défendaient dans une entreprise devant le parquet, devant les attaques. Aujourd'hui, ça a instillé une culture beaucoup plus collaborative entre autre création de ces dernières années qui est le parquet national financier. Donc on a beaucoup entendu parler, dont la première procureure, Madame Houlette, vient de quitter ses fonctions. Et donc, ça veut dire que, là aussi, sous l'impulsion, parce que c'est une impulsion américaine, sous l'impulsion du business global, donc américain, on a fait évoluer notre culture.
Tout à fait. C'est la grande problématique actuelle. C'est-à-dire qu'il faut que la France s'adapte à la mondialisation. Bien sûr. Notamment dans le domaine du droit, dans le domaine de la justice, il faut aussi qu'elle s'adapte à la mondialisation et donc à ses pratiques.
S'adapter à la mondialisation pour mieux protéger sa souveraineté.
Pour mieux, c'est ça. Exactement.
C'est ça l'équation qu'il faut résoudre.
résoudre.
L'équation qu'il faut résoudre. Il ne s'agit pas de sortir de la mondialisation.
C'est ça.
Il ne s'agit pas de sortir de la coopération judiciaire internationale. Ce qu'il faut, c'est doter la France d'outils pour qu'elle elle puisse mieux combattre et s'adapter à la mondialisation.
Alors, comment est-ce que vous avez imaginé pour continuer ce travail et résoudre ce paradoxe que nous n'avons pas le poids suffisant en France? On est finalement un pays, une puissance économique qui est tout à fait asymétrique comparé aux États-Unis. Comment est-ce que vous, quelle solution vous avez imaginé pour continuer de pas de rétablir l'équilibre, mais de nous protéger et de protéger nos entreprises, en rappelant que les entreprises françaises ont pas mal dérouillé, elles ont pas mal payé ces dernières années.
Énormément payé, énormément payé. Bah, la plus grande condamnation, c'était en 2014, je crois, le BNP Paribas qui a eu une sanction à hauteur de 10 milliards de dollars. Alors, pour que les auditeurs prennent la mesure de ce que c'est que 10 milliards de dollars, le budget annuel de la justice en France, c'est 8 milliards d'euros. Donc 10 milliards de dollars, c'est une sanction qui est supérieure au budget annuel de la justice.
Alors, on aurait préféré que cet argent restât en France.
Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et même, il y a l'été dernier, Société Générale a été condamnée à 1,5 milliard. 1,5 milliard de dollars. Donc, par la justice américaine. Donc c'est quelque chose, oui, où il y a les... Et en fait, ce qui ressort du rapport, parce que tout à l'heure on parlait donc de d'instrumentalisation et de où le droit devient une arme, et ce qui ressort très clairement, il n'y a pas que ce rapport qui le dit, avant il y a eu un rapport sous la présidente Lelouch Berger, qui avait très bien démontré aussi la manière dont les Américains instrumentalisent ce type de procédure, utilisent le droit comme une arme pour sanctionner nos entreprises. Et surtout, ce qui frappe quand on regarde les différents chiffres, enfin toutes les différentes condamnations qui sont intervenues, c'est que les entreprises européennes et notamment les entreprises françaises sont des cibles de choix des procureurs américains.
C'est là où on est un peu des enfants de cœur, nous, en France, Raphaël Gauvin.
Et je suis d'accord avec vous, Antoine Garapon, c'est là où on est des enfants de cœur, et c'est là où il y a une prise de conscience où moi, je suis pas un théoricien je suis pas du tout complotiste. Mais quand on regarde les chiffres, quand on regarde la vérité des condamnations sur les 10 dernières années, on voit en quoi ces procédures ont été instrumentalisées et qu'il y a un choix des procureurs américains pour sanctionner les entreprises françaises, pour en réalité les mettre au pas dans le cadre de la guerre économique.
Alors, les mettre au pas, et moi ce qui je trouve très impressionnant chez les Américains, et que nous ne sommes pas capables de faire aussi bien qu'eux, c'est quand on regarde l'affaire d'Alstom, ils ont fait travailler ensemble leur service de judiciaire pour mettre Alstom sous pression, une stratégie économique pour récupérer un bout d'Alstom avec General Electric. Ouais. Tout cela a été très coordonné.
Oui. C'est-à-dire que l'affaire Alstom, au départ, il y a une enquête anticorruption du département de justice américain. Et il y a une concordance qui fait que, pas à l'issue de la procédure, mais face à la pression de la procédure, aux milliards de dollars que encourait Alstom, l'entreprise a été cédée à General Electric.
Alors, il y a une autre difficulté.
Mais là, il y a beaucoup d'observateurs, je suis pas le seul à le dire, et de gens qu'on a entendu aux États-Unis, il y a les services, les avocats, les procureurs, enfin travaillent ensemble. Il y a quelque chose qui est et ce sont des cibles et la justice américaine est au service des intérêts des États-Unis et des entreprises américaines.
La justice en tant que le parquet, parce que
c'est la grande différence de ces procédures, c'est qu'en réalité c'est une justice sans juge. Oui. C'est une justice sans droit de la défense.
Parce qu'en réalité, comment ça se passe, c'est que le parquet, le département de la justice, le ministère de la justice, agite un épouvantail terrible qui est, si vous ne négociez pas avec nous, si vous ne collaborez pas avec nous, vous n'aurez plus l'accès au marché américain. Alors bien sûr, ça c'est dériment. Donc immédiatement, on négocie et ce deal qui a été fait passer avec le département de la justice, très souvent ne sera jamais contrôlé par un juge. Donc, en réalité, c'est une justice sans juge, mais la question que je vous pose, Raphaël Gauvin, parce que moi, elle me taraude, c'est est-ce que nous ne devrions pas faire des efforts en France pour que les procureurs, qui sont une émanation de la souveraineté nationale, qui mettent en œuvre une politique pénale, qui ne sont pas des juges, et les entreprises et le ministère de la des Finances devraient travailler plus ensemble, de manière plus synergétique, de façon à avoir la même efficacité que celle des Américains.
Oui, oui, sans doute, sans doute, sans doute. Oui, tout à fait.
Ça, c'est une faiblesse, je trouve, que...
L'institution du parquet national financier, la logique...
Va dans ce sens-là.
Voilà, va dans ce sens-là.
Alors, les Américains ne...
Et la loi Sapin 2 qui tend à mettre en place... En fait, la loi Sapin 2 dont vous avez parlé tout à l'heure, l'accord, c'est directement issu du droit américain et de ses accords... c'est ce qu'on appelle les DPA, qui sont négociés, et c'est on a reproduit dans le droit français exactement la même chose.
Alors, Deferred Prosecution Agreement, ça veut dire, en fait, c'est une manière de négocier la poursuite. Alors, le but, c'est bien sûr de punir des entreprises, donc de prononcer des amendes, quoi, de négocier avec elles des amendes très très importantes, mais aussi... quelque chose, il y a un risque supplémentaire sur lequel vous insistez dans votre rapport, Raphaël Gauvin, c'est la captation d'informations sensibles. C'est-à-dire que là aussi, les Américains ont bien compris que dans l'heure du capitalisme cognitif, ce qu'il faut, c'est capter les informations pour avoir les bonnes informations, pour prendre des décisions bien fondées et donc bien savoir ce qui se passe chez les autres. Pas des ennemis, mais bien savoir ce qui se passe chez les autres. Et là aussi, nous sommes en retard sur ce
alors là, on soulève... Alors ça, c'est quelque chose qui est pas... qui est là, pour le coup, qui est très très ancien. C'est une grande différence entre notre procédure et la procédure américaine, et notamment dans le cadre des procédures civiles, où il y a un mécanisme qui existe aux États-Unis comme en Angleterre, qui est la procédure dite de discovery, et qui permet à un concurrent d'aller devant un juge et d'aller recueillir, de forcer la partie adverse à lui communiquer énormément d'informations. Et notamment, c'est grâce à cet instrument-là qu'il y a un certain nombre d'affaires qui ont été instrumentalisées au départ, où les autorités américaines sont passées par ces procédures de discovery pour récolter un maximum d'informations et ensuite engager des poursuites.
C'est ça. Alors, on voit toute la difficulté du droit global, parce que la procédure de discovery, ça veut dire ce droit d'exiger de l'autre partie qu'il donne, qu'il ouvre tous ses fichiers,
qu'il ouvre ses comptes.
Bon, c'est quelque chose que personnellement, je suis assez admiratif au niveau interne, parce que ça prouve qu'on a des procès qui sont très très basés sur des faits très concrets, avec un très grand respect pour le juge. Mais ces deux qualités de la common law, du droit anglo-américain, quand elles passent les frontières, elles sont plus du tout vertueuses.
Non, c'est ça le problème.
Le juge est mis de côté et la discovery sert à beaucoup de choses, mais plus forcément à trouver la vérité.
Et il y a ce qu'on a vu aussi dans ce qui ressort de nos auditions, c'est qu'il y a un certain nombre d'informations sensibles pour les entreprises françaises qui sont parties vers, alors pas que dans le cadre de procédures engagées par les autorités publiques, mais avec des concurrents, où ils ont engagé des procédures de discovery, et les entreprises françaises se sont fait piller, entre guillemets, prendre leur savoir-faire.
Prendre leur savoir-faire. Alors ça, c'est quand même, encore une fois, à l'heure du capitalisme cognitif, dans le monde, se protéger, c'est protéger ces informations, certaines informations, pas toutes, bien sûr, mais notamment les informations stratégiques, qu'on appelle la technologie de souveraineté. Et là, il y a une véritable réflexion à avoir. Et puis, il y a une dernière source de faiblesse dans notre système, c'est que nous avons des juristes d'entreprise qui ne sont pas avocats, et donc toute la communication qu'ils entretiennent avec les dirigeants d'entreprise peut être sur la place publique.
Ça, c'est la grande faiblesse du droit français et de nos entreprises françaises, c'est l'absence totale de protection des avis juridiques, donc des consultations juridiques en interne. Ça, c'est quelque chose qui ressort, mais extrêmement clairement de nos auditions. C'est un débat qui a lieu en France depuis une vingtaine d'années.
Qu'on n'a pas réussi à trancher.
Et qu'on n'a jamais réussi à trancher. Et ça, c'est encore, et dans le cadre de ces procédures, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont été fortement condamnées, mais parce que elles ont été dans l'obligation de communiquer ces éléments, alors même que leurs concurrents, les Pays-Bas,
eux sont protégés.
Et la France, on a fait un tableau comparatif des différentes législations. Ça existe aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Japon, en Angleterre, aux États-Unis, bien sûr, partout dans le monde, sauf en France.
Alors, et vous notez, ce qui est quand même très préoccupant, c'est qu'il y a des entreprises françaises du CAC 40 qui vont délocaliser leurs services juridiques pour avoir la protection de leurs juristes.
Exactement.
Alors ça, c'est quand même...
Qui partent notamment en Belgique ou aux Pays-Bas.
Aux Pays-Bas, beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous?
C'est l'une des premières propositions pour protéger nos entreprises dans le cadre de cette mondialisation et dans le cadre de ces procédures. C'est avant tout, il faut leur donner des armes pour se défendre. Qu'il faut, c'est leur donner des armes. Et donner des armes, oui, c'est protéger les avis juridiques.
Voilà. Que les avis juridiques soient secrets.
Soient protégés. C'est-à-dire que ça sera pas une boîte noire.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que c'est qu'ils sont pas communicables dans le cadre d'une procédure. C'est-à-dire que le juge, notamment le juge français, pourra toujours aller voir l'avis juridique, mais il y aura un débat pour savoir si oui ou non il est exploitable dans le cadre d'une procédure.
Et là, c'est une manière d'aligner le droit français sur ce qui se passe chez la plupart de nos pays amis et concurrents.
On se met juste au même niveau.
C'est ça.
Voilà, c'est juste dans la guerre économique, dans cette grande bagarre, on leur donne les mêmes armes.
Vous êtes un politique, Raphaël Gauvin. Il y avait des blocages. Ils étaient où, ces blocages, pour qu'on ne veuille pas de l'avocat en entreprise?
Alors, c'est en France, il y a beaucoup de conservatisme, beaucoup de corporatisme, et qui font
plus qu'aux États-Unis,
sans doute beaucoup beaucoup plus qu'aux États-Unis. Et donc c'est l'un des sujets, des totems qui revient régulièrement. Je crois que sur ce sujet-là, je dois être le 8e rapport en 25 qui recommande de protéger les avis juridiques. Et son corollaire, parce que c'est là où la question se complique et devient très compliquée, son corollaire, c'est l'avocat en entreprise.
Alors,
qu'il faut que l'avocat qui aujourd'hui exerce à titre libéral, uniquement à titre libéral, puisse aller dans l'entreprise et ait un statut de salarié.
Ce qui donnera un coup de fouet aussi à la profession d'avocat, ce qui va vers la grande profession du droit.
Exactement. Ce qui permettra de développer le marché du droit en France et permettra de... Mais c'est une question qui est essentielle. Tout à l'heure, vous pointiez, Antoine Garapon, le risque de délocalisation d'un certain nombre de services juridiques. Ou même, dans le cadre du Brexit, il y a un certain nombre de sièges d'entreprises qui essaient de se relocaliser en Europe continentale. Et donc, le choix entre les Pays-Bas ou Paris.
C'est une occasion formidable pour la France.
Et le fait que l'avocat puisse être en entreprise et que les avis juridiques sont protégés ou pas, c'est une question dans le top management qui est essentielle. Dans le choix, c'est quelque chose qui est essentiel. Et donc, derrière tout ça, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers d'emplois dans les 10-15 ans à venir.
Et d'emplois très qualifiés.
À très forte valeur ajoutée, je suis tout à fait d'accord avec vous, qui sont menacés, si on ne fait pas la réforme.
Bien sûr.
Aujourd'hui, le risque, pendant longtemps, on pensait que le risque, c'était de faire, c'est-à-dire d'engager les réformes. Il y avait un risque d'engager une réforme. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que le risque, c'est de ne rien faire.
Alors, Raphaël Gauvin, le 8e rapport qui propose ça sera le dernier. Vous avez bon espoir?
J'ai très bon espoir.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif, c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ses bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. on est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis.
France Culture, matière à penser, Antoine Garapon. Du ministère,
matière à penser, toujours avec Raphaël Gauvin pour parler de la défense de la souveraineté française. Et Raphaël Gauvin, qui est député de Saône-et-Loire, a choisi de nous faire entendre cette chanson « Les oubliés » de Gauvin Serre.
Mm-hmm.
C'est un choix surprenant pour
non,
un député.
Non, c'est pas un choix. Non, alors, en fait, Gauvin Serre, moi je l'ai découvert sur les ronds, cette année, sur les ronds-points, quand je suis allé voir. Parce que moi, je suis un député des champs, hein, de la côte chalonnaise, de Monceau, et où les ronds-points étaient très très animés. On avait les gilets jaunes, et donc dans les manifestations de la CGT, alors à chaque fois que j'arrivais, mais Gauvin, tu sers à rien, etc. Donc du coup, je suis allé voir l'artiste, et notamment et cette chanson, j'aime particulièrement cette chanson. Hein, bon, c'est des chansons à texte, avec c'est très très mélodieux, et Et je trouve qu'il décrit très très bien ce qui s'est passé cette année. Il l'a sorti en plus au tout début du mouvement, et il décrit très très bien cette souffrance, hein, les oubliés, ces gens qui. Mais ce que je veux lui dire, enfin moi je le connais pas, mais ce que je veux lui dire, c'est que ben mais je suis pas d'accord avec lui. C'est-à-dire que non, ce sont pas des oubliés, et ce ne sont pas les cadets de leurs soucis. Il dit dans la chanson, c'est politique, oui. Ou c'est la haute administration qui s'occupe pas des. Bien au contraire, moi je peux vous dire que les députés. Et j'ai voulu qu'on écoute cette chanson là parce que là on parle de mondialisation, d'adaptation de la France à la mondialisation, donc tous ces enjeux, l'extraterritorialité qui pour les gilets jaunes parle pas, mais je peux vous leur dire que c'est, quand tout à l'heure on disait que c'était des dizaines de milliers d'emplois, oui, c'est ça les concerne directement, et le combat que moi je mène avec ce rapport, etc., c'est aussi surtout pour ces gens qui se disent oubliés, mais que on travaille aussi et surtout pour eux.
C'est ça, parce que la souveraineté, c'est ce qui réunit tout le monde.
Bien sûr. Et
c'est en protégeant aussi les fleurons de nos entreprises qu'on protège l'emploi, qu'on protège la vitalité des territoires.
Bien sûr, bien sûr. Et dans le cadre des Gilets jaunes, je me souviens, c'était à Monceau, c'était au début du mouvement, il y a un petit garçon de 7 ans qui était venu et qui m'a remis une lettre qu'il fallait que je devais remettre au président Macron, où il demandait sa démission, etc. Mais moi, ce que je voulais lui dire, c'est que dans le cadre de ces réformes-là, même s'ils pensent que on s'intéresse que aux grandes entreprises, que aux Parisiens, etc. Mais c'est aussi pour lui, parce que dans 15 ans, s'il travaille bien à l'école, il fait sa fac de droit, il rentre dans une entreprise, et on se bat pour préserver notre souveraineté, pour préserver nos entreprises et pour préserver l'emploi.
Et Raphaël Gauvin, vous avez l'impression sur les ronds-points de pouvoir amorcer un dialogue, d'être entendu, ou du moins de pouvoir vous expliquer, ou c'était très très chaud, comme on dit?
Ah non, bien sûr que c'était très très dur. C'était très très dur. Oui. Et le président l'a dit cet été, hein, le feu couve toujours sous la cendre. Et ça, je peux vous dire, c'est là, donc on a repris là, j'ai reçu les organisations syndicales, etc. C'est c'est encore parce que c'est ce que décrit Gauvin Serre, c'est-à-dire que la une grande partie de la population se sent totalement en dehors de ces questions, totalement en dehors de cette mondialisation où il faut absolument qu'on fasse ces réformes pour adapter la France à la mondialisation, et c'est comme ça qu'on préservera l'emploi à Châlons, à Monceau et dans la France entière.
Bien sûr, et c'est ça toute la difficulté de compréhension de notre époque. Alors, protéger la souveraineté, à la fois s'adapter à la mondialisation, et dans la première partie de l'émission, on a vu comment, c'est pas nouveau d'ailleurs, hein, les précédents gouvernements ont chacun apporté leur contribution, leur pierre, pour essayer de se mettre à la page pour que on continue d'appliquer le droit français en France. C'est ça l'objectif. Alors, il y a cette fameuse loi de blocage. La loi de blocage, ça pose une question qui est très importante, c'est de restaurer des barrières informationnelles, des frontières informationnelles. C'est-à-dire, les informations doivent rester, on doit les contrôler, elles ne doivent pas partir n'importe où. Voilà. Ça, c'est tout à fait essentiel. Alors, qu'est-ce que vous
proposez ? C'est la loi de blocage, en fait, c'est un mauvais terme, c'est une loi de filtrage.
C'est ça, exactement.
C'est-à-dire que c'est une loi qui a été mise en place en 1968, donc, et qui impose à une autorité publique étrangère, donc à un juge américain ou un procureur américain, s'il veut des informations sur une entreprise française, de passer par les voies de la coopération judiciaire internationale.
Mais on est assez
Et ça, c'est quelque chose qui, ce qui ressort de nos auditions, quelque chose qui aujourd'hui, elle est totalement contournée. Et notamment dans les différentes affaires qui se sont passées, les pouvoirs publics américains se sont adressés directement, ou même dans le cadre d'une procédure civile, ouais. Ils s'adressent directement à l'entreprise française.
C'est ça.
Et donc l'objectif, avec c'est de réformer la loi de 1968, de la rendre véritablement effective, parce que en réalité, elle n'a jamais été appliquée.
Vous le dites très bien d'ailleurs.
Oui,
elle n'a pas fonctionné,
elle n'a jamais été appliquée. Et donc l'objectif, c'est ça, c'est de restaurer notre souveraineté en mettant l'État en protection entre les entreprises françaises et les autorités publiques étrangères.
Mais est-ce que on est à l'heure de l'accélération, de la vitesse, et dans lequel tout va très vite, les informations doivent circuler rapidement, les entreprises elles-mêmes demandent à ce que, quand il y a un contentieux, qu'on s'en sorte rapidement pour pouvoir passer à autre chose. Est-ce que, à vouloir trop attraper, Raphaël Gauvin, vous ne craignez pas de nouveau de tomber dans l'impuissance? Est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer?
Non, c'est pas tomber dans l'impuissance, mais par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est-à-dire que c'est pas une arme absolue.
Oui.
C'est-à-dire que et surtout, c'est que on met nos entreprises un peu entre le marteau et l'enclume, parce que la justice américaine leur demande des informations sous peine de sanctions qui peuvent être très importantes.
Très importantes pour
elles. Et de l'autre côté, nous, on leur dit non, c'est hors de question. Vous pouvez pas, si vous faites ça, on vous sanctionne. Donc on les met entre le marteau et l'enclume.
Et ce qui est intéressant, c'est que les entreprises, souvent, elles choisissent les Américains parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est Total.
Alors,
Total.
Oui, elles n'ont pas le choix, mais parce qu'elles n'ont pas le choix, c'est parce que ce qu'elles nous disent, c'est ce qui ressort de nos auditions. Ce qu'elles nous disent, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a pas de loi. La loi de 68 n'est pas effective. Mais par contre, elles le demandent. Pour elles, ça ressort très clairement, encore une fois, des auditions. Ça sera un outil efficace. Alors, mais après. Il va falloir manier ça avec mesure.
Avec mesure. Qu'est-ce que vous proposez concrètement?
Alors, concrètement, en fait, c'est que, à l'heure actuelle, pour la rendre plus effective, il faut que la sanction soit effective. Aujourd'hui, la sanction, c'est 18 000 euros. Une entreprise américaine qui, dans le cadre d'une discovery, qui ne répond pas à une discovery, c'est plusieurs millions de dollars.
Voilà.
Donc, ce qu'il faut d'abord, c'est passer élevé.
À la bonne échelle.
À la bonne échelle. Donc, on propose de passer de 18 000 euros à 2 millions d'euros pour les personnes physiques, fois 5 pour les personnes morales. Après, on met en place un système de déclaration auprès d'un service de Bercy qui permettra d'accompagner l'entreprise. Et notamment de voir dans le cadre de cet accompagnement, parce que ça ne concerne pas, ce qu'il faut bien voir, qu'aujourd'hui dans le cadre de la mondialisation, ça ne concerne pas que Total et la BNP Paribas.
Oui.
Il y a énormément d'entreprises, de PME.
Y compris de PME.
Y compris de PME. Oui. Mais aujourd'hui, la France, la grande partie des PME, moi j'ai des PME à Chalon, qui sont ouvertes à l'international.
C'est-à-dire qui n'ont pas les moyens de se payer un service juridique performant.
Exactement. Et donc, il faut qu'il y ait ce service de l'État, donc c'est un service de Bercy qui s'appelle le CIS, et qui accompagne les entreprises qui peuvent, pour les accompagner, telle information, attention, cette information est sensible, relève aussi du secret défense ou d'un secret, etc. Et donc, vous n'avez pas l'obligation de le communiquer, et même vous avez l'interdiction, etc. Donc, qui fera le tri, qui accompagnera l'entreprise.
Vous n'avez pas peur d'une réaction américaine un peu violente à cela? Parce que, ils n'aiment pas beaucoup qu'on leur résiste, les Américains.
Non. Mais c'est quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire, et il y a dans un certain nombre d'affaires, des avocats français devant les juridictions américaines soulèvent l'application de la loi de 68.
La Cour suprême des États-Unis a rendu un arrêt assez intéressant, très singulier, mais qui est tout à fait dans l'esprit américain. C'est l'arrêt aérospatial qui dit qu'est-ce que c'est que cette loi de blocage? Elle n'est pas appliquée. Si elle n'est pas appliquée, c'est que elle n'est pas respectable.
Elle n'est pas
respectable. Donc on la respecte pas.
Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on la rende effective.
C'est ça. Voilà. Et donc, est-ce qu'il faudrait pas faire un tri? Ça, c'est ma question, parce que il y a tellement d'affaires de business pour parler familièrement entre la France et les États-Unis que le service de la CIS va pas y suffire. Est-ce qu'il faudrait pas cibler des avoirs stratégiques ou des technologies de souveraineté, c'est-à-dire bon, il y a les affaires banales parce que les entreprises peuvent fauter, peuvent avoir des contentieux commerciaux, mais il y a des choses, il y a des informations qui sont des informations sensibles.
Bien sûr, tout à fait. Ouais. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup surpris dans le cadre de ces auditions, c'est que quelque chose, il n'y a pas de doctrine française du secret.
Non.
C'est-à-dire non, que cette question que vous posez, que ce soit à la chancellerie, au ministère des Affaires étrangères ou à Bercy, personne n'est capable de dire quelle est la doctrine française. Et surtout, qui s'en occupe. Et chacun dit, mais ça, c'est le Quai d'Orsay.
Ne parle pas, d'ailleurs.
Qui ne parle pas. Voilà, exactement. Et donc, ce qu'il faut, c'est aussi l'une des recommandations du rapport, c'est qu'il faut absolument qu'ils se mettent autour d'une table, qu'on définisse une doctrine du secret et qu'il y ait un arrêté, qu'on définisse tout ça.
C'est ça le défi, un défi tout à fait interne pour nous, pour la France, où nous avons une administration d'excellence, quoi, qui est quand même qui marche globalement bien par rapport à beaucoup d'autres, mais beaucoup en silo. Qui ne se parle pas, pas suffisamment, alors que les Américains réussissent par un système qui est tout à fait particulier, qu'on peut pas copier d'ailleurs, qui est le fait qu'ils ont une grande profession du droit, et que ces gens-là, du parquet de New York, des agences spécialisées, des law firms et de la classe politique, c'est les mêmes.
C'est les mêmes. Ils se connaissent, ils tournent. Ils sont procureurs, le lendemain, ils sont au Congrès, le surlendemain, ils sont avocats, tout à fait. Alors, et c'est l'une de leurs grandes forces dans le cadre de
ces.
Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, c'est quelque chose que j'ai été élu en 2017 et donc que je découvre, notamment le fonctionnement de l'administration. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que les administrations travaillent en silo. Ouais. Et qu'on a besoin, et notamment dans le cadre de ces questions-là, de transversalité.
Tout à fait. Alors, il y a aussi, et ça fait partie de la complexité, une complexité supplémentaire de notre époque, c'est le Cloud Act américain. Vous allez nous expliquer en deux mots ce que c'est. Moi, je dirais, c'est la réponse du RGPD, c'est-à-dire c'est la réponse américaine au fait que les Européens ont voulu protéger leurs données, ont voulu s'organiser, enfin, et ils l'ont pas si mal fait d'ailleurs, et eux ont dit, nous, on prend une loi, assez rapidement, là aussi, très grande réactivité, et qui leur permet de se faire qui exige de toutes les entreprises américaines de communiquer toutes leurs données lorsqu'il y a une réquisition des autorités publiques.
Voilà. Alors là, en fait, là, cette histoire de Cloud Act, c'est vraiment l'étape ultime de la montée en puissance des lois extraterritoriales. C'est quoi, en fait, le Cloud Act? Ça permet à un juge américain de demander à une entreprise américaine de lui communiquer toutes les données qu'elle détient d'une entreprise française. Et notamment qui demande aux fameuses GAFA, qui détiennent Amazon, etc., qui dans le cadre du cloud, les entreprises françaises ont migré 80% ou 90% des données des entreprises françaises aujourd'hui sont sur le cloud. Sont sur le cloud américain.
On est complètement transparent avec cette loi.
Oui, et donc, même si les données sont sur des serveurs qui sont en France, le juge américain aura la possibilité d'y avoir accès. Et donc là, on voit, et là, pourquoi je vous dis que c'est le raffinement ultime, c'est que il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, s'il y a une enquête aux États-Unis, si on veut qu'il y ait une perquisition, qu'on aille chercher des données dans une entreprise française, il faut forcément passer par un juge français qui va perquisitionner dans l'entreprise française. Et là, en fait, en quelques clics...
Ils ont tout.
Et c'est là où c'est une atteinte extrêmement grave à notre souveraineté. Et donc là, il faut absolument rétablir l'équilibre. Et donc, ce qu'on propose, c'est de mettre en place un conflit de loi. C'est-à-dire que, tout simplement, on pose une interdiction avec une sanction extrêmement dissuasive, comme pour le RGPD. C'est 4% du montant du chiffre d'affaires mondial contre les GAFA. C'est-à-dire que si on dit aux GAFA, si vous répondez aux demandes de la justice américaine et que vous communiquez les données des entreprises de Renault ou d'Orange qui sont sur des serveurs basés à Paris, vous les donnez à la justice américaine et donc vous court-circuitez l'ensemble de la coopération judiciaire internationale, si vous faites ça, on vous sanctionne très clairement. Et donc vous voyez que tout à l'heure on disait qu'on mettait en place un conflit de loi, que les entreprises françaises, avec la loi de 68, étaient entre le marteau et l'enclume. Là, on met les entreprises américaines entre le marteau et l'enclume.
Raphaël Gauvin, quand on voit la difficulté qu'a notamment la France à travers le président Macron à taxer les GAFA, vous pensez que cette mesure a une chance d'aboutir?
Alors c'est pas une taxe, hein.
Non, c'est pas une taxe. Punition, c'est une sanction.
Mais dis donc, c'est une sanction qu'il faudra sans doute également qu'on porte au niveau européen, pour le RGPD. Oui, mais on a le droit de. Le RGPD, c'est aussi une sanction. On a quand même le droit.
Mais ça veut dire, Raphaël Gauvain, que dans votre rapport, vous avez eu.
En fait, on demande. Il y a le RGPD qui est en place, qui concerne les données des personnes physiques, les données personnelles. Et en fait, on demande, en gros, c'est pas tout à fait vrai, mais en gros, ce qu'on demande, c'est une extension pour protéger les données des personnes morales.
Est-ce que vous vous adressez pas aussi à l'Europe, Raphaël Gauvain, dans ce rapport? Est-ce que c'est pas aussi une incitation, un rôle moteur que la France a ou devrait avoir pour mobiliser ses collègues européens pour avoir une réponse européenne?
Il faut, c'est-à-dire que la France doit montrer l'exemple. Je pense qu'il faut qu'elle modifie sa législation, notamment avec refaire la loi de 68 et mettre en place cette mesure anti-Cloud Act. Mais il faut absolument que cette mesure soit portée au niveau européen. Dans le cadre de la nouvelle commission.
Et votre impression que, parce qu'il y a des propos contradictoires. Certains disent l'Europe suivra jamais, on est trop divisé. D'autres disent que, notamment les Allemands seraient intéressés de faire équipe avec nous sur ce dossier-là. Et plus profondément, d'ailleurs, d'instaurer un système de compensation bancaire SWIFT, c'est-à-dire de nous rendre plus autonomes d'un point de vue bancaire, de façon à ne plus être aussi dépendants des Américains.
Dans le cadre de transactions internationales, que l'euro soit utilisé et pas le dollar.
C'est ça.
C'est l'une des autres réponses.
C'est ça.
Bien sûr.
Est-ce que c'est pas la réponse de fond, c'est-à-dire la réponse de la maturité politique de l'Europe?
Bien sûr. Dans le cadre de cette guerre économique, il faut absolument que la France mobilise et que cette protection, cette réponse aux Américains, cette réponse à l'extraterritorialité, se fasse dans un cadre européen. Évidemment.
Mais ça veut dire qu'il faut que l'Europe se pense, vis-à-vis de son extérieur, qu'elle se pense comme une puissance juridique.
Exactement.
Qui a une stratégie juridique. Et c'est ça, peut-être, encore une fois, le fond de la réponse, aussi bien aux Chinois qu'aux Russes.
Tout à fait.
Alors là, on a beaucoup parlé de ce que vous proposez, ce que propose ce rapport, Raphaël Gauvain. La prochaine étape, c'est quoi votre prochain agenda pour mettre tout ça en ordre?
C'est un rapport parlementaire commandé par le Premier ministre. Donc moi, je l'ai remis au Premier ministre en juin dernier. Donc maintenant, la balle est dans le camp. Vous savez, dans le cadre des institutions de la Ve République, c'est le gouvernement qui conduit et détermine la politique de la nation. Donc j'espère que ce rapport servira pas à caler une arme au troisième bureau de Bercy, mais qu'il donnera quelque chose et qu'il y aura un débouché. Et le débouché, ça serait un projet de loi, une proposition de loi qui mettrait dans la législation française la protection des avis juridiques, la réforme de la loi de 68 et la loi anti-Cloud Act.
Mais vous avez du monde derrière vous. Vous avez les avocats, notamment.
Alors, pas tous les avocats. Pas tous les avocats.
Eh bien, écoutez, souhaitons bonne chance et longue vie à ce rapport. Merci, Raphaël Gauvain. Matière à penser, Raphaël Gauvain, Alain Joubert, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Lévigne, Antoine Garapon. À demain.